après je parle.
Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, low-technicisation et numérique avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier cours émission de la formation Upload, low-technicisation et numérique. Vous écoutez la radio Graphite 94.9, il est midi et demi et pendant une heure, nous allons écouter Yacine Baouch et Stéphane Croza nous présenter The Big Conf au format radio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Audrey.
Bonjour Audrey.
Alors, nous sommes aussi en direct sur Peertube à l'adresse tube.picassoft.net, chaîne Upload l'ONUM, où vous pourrez ensuite retrouver les rediffusions de ce cours émission et puis des autres à venir. Vos questions et remarques sont les bienvenues dans les commentaires du live. Utilisez le tag l'ONUM et puis on vous répondra pendant ou après le cours émission si le temps nous manque. Alors avant d'aborder le contenu de ce cours émission, Yacine, est-ce que tu veux bien peut-être te présenter en quelques mots et puis commencer aussi par nous donner quelques objectifs de ce cours émission?
Alors du coup, je suis donc Yacine Baouch, je suis enseignant à l'Université de Technologie de Compiègne en ingénierie mécanique. Et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler d'enjeux énergie-climat. Donc c'est un petit peu de ce sur quoi je vais vous parler aujourd'hui. Donc le but, c'est de parler de ces deux notions. Et c'est un format que d'habitude est fait sous forme d'une conférence qui dure 1h45. Donc c'est une expérimentation que je vais faire avec vous aujourd'hui, mais je suis totalement confiant sur la réussite de cette expérience. Et vraiment, le mot-clé de cette conférence, c'est des non-experts pour des non-experts. Donc le but, c'est vraiment un aspect de vulgarisation de notions. Donc je vous l'ai dit, d'habitude, c'est une conférence qui dure 1h45. Donc ce n'est pas un contenu que j'ai créé moi-même. J'ai été récupérer un contenu qui est créé par une association qui s'appelle Avenir Climatique, qui a produit le contenu de la Big Conf, c'est son petit nom. Et il a aussi été alimenté, on a modifié quelques diapos, on a rajouté des choses. Et je remercie au passage Valérie Moreau, qui a contribué fortement à la préparation de cette petite émission. Donc cette conférence, elle se déroule habituellement et sous le format licence CC, donc libre. Je pense que ça parlera à nos auditeurs. Avec l'obligation de citer la paternité, donc c'est ce que je viens de faire en vous parlant d'avenir climatique. Et bien sûr, tout est diffusable dans les mêmes conditions. Donc tout ce que je vais vous raconter ce midi sera sourcé. On peut retrouver les informations. Par contre, vu qu'on est un petit peu condensé, je ne pourrais pas me permettre à chaque fois de réexpliquer la source, mais je vous renverrai vers les documents qui permettent de montrer et de sourcer ces différentes informations. Donc je vais vous parler d'enjeux énergie-climat et également une troisième partie autour des leviers d'action possibles.
Bien, c'était un extrait de TNT d'ACDC, issu de l'album High Voltage, version live de 92. Et donc, Yacine, tu as choisi ce morceau, je crois, parce que tu as prévu de commencer ce cours émission par la question de l'énergie. Alors, l'énergie, c'est probablement le sujet auquel on pense toutes et tous quand on pense problème environnemental. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est si central comme problème ?
Alors, l'énergie, c'est une notion qui est intéressante. On peut la définir de façon scientifique, avec les sciences de la physique, de façon assez complexe. Ce qui est intéressant sur l'énergie, c'est plutôt de s'intéresser à quoi elle sert et ce qu'elle permet de faire. Et concrètement, l'énergie, ça permet de modifier la vitesse d'un objet, monter une température, changer d'altitude, ça permet de faire pas mal de choses. Et on a coutume de dire que finalement, plus on va consommer d'énergie, plus on va transformer le monde, pour les raisons que je viens de vous citer. Donc, histoire d'être à peu près précis sur les notions énergétiques, on va faire une différence dans le cadre de ce cours entre l'énergie et la puissance. La puissance, ce sera une notion qu'on exprime en kilowatts. Concrètement, si vous prenez l'image d'un cycliste, la puissance, c'est l'effort qu'il doit fournir instantanément pour maintenir une certaine vitesse avec une certaine pente. Donc ça, c'est la puissance, c'est l'effort que le cycliste développe. Et on ajoutera une autre notion qui s'appelle du coup l'énergie, qu'on exprimera en kilowattheure. Et toujours avec l'image du cycliste, l'énergie, c'est la quantité de pâtes ou de barres de céréales qu'il doit manger après une sortie pour compenser toute l'énergie qu'il a dépensée pendant sa sortie.
Alors Yacine, on ne fait pas tous du vélo. Est-ce que tu peux nous proposer d'autres exemples concrètement? Un kilowattheure, par exemple, ça correspond à quoi?
Alors un kilowattheure, ça va être l'énergie qu'on a besoin pour faire cuire un gâteau. Pendant une heure de cuisson de gâteau, ça fait un kilowattheure. Alors je continue toujours avec mon exemple des cyclistes. Un kilowattheure, concrètement, c'est 10 cyclistes qui vont pédaler pendant une heure. Donc ce n'est pas des gros cyclistes, c'est, on va compter 20 km/h à peu près de vitesse sans dénivelé. Donc on réussit à obtenir cette énergie avec 10 cyclistes pendant une heure. Après, on va quand même essayer de réfléchir un petit peu en termes d'équivalent. Et si vous payez ces cyclistes, qu'il y a peu de chances que vous réussissiez à trouver 10 potes à vous qui acceptent de pédaler pendant une heure, si vous les payez au SMIC pour réussir à avoir ce kilowattheure pour faire cuire votre gâteau, ça va représenter 105 euros. Maintenant, on n'a pas tous donc 10 potes cyclistes qu'on est prêt à payer pour faire cuire son gâteau. On branche généralement son four sur une prise électrique. Et là, au prix actuel, on est autour de 20 centimes pour avoir ce kilowattheure d'électricité.
Attends, tu veux dire que si on doit pédaler pour produire un kilowattheure, ça fait 100 euros, mais si on branche sa prise, ça coûte seulement 20 centimes. Et du coup, c'est de la magie entre les deux, là, qu'est-ce qui se passe?
C'est de la magie, mais on appelle ça couramment plutôt de la physique ou de l'ingénierie. On a mis en place des outils de production d'énergie. Donc pour obtenir ce kilowattheure, toujours, si on réfléchit un peu en termes d'ordre de grandeur, si vous utilisez un barrage, il faudrait compter 8000 litres d'eau, donc ça fait l'équivalent d'une petite piscine qu'on peut avoir dans son jardin. Et on fait passer ces 8000 litres d'eau sur un dénivelé de 50 mètres. Donc pour votre gâteau, ça vous fait quand même pas mal de place dans votre jardin pour réussir à avoir ce kilowattheure. Sinon, on peut utiliser des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, pour avoir ce kilowattheure, il nous faudra 50 mètres carrés. Ça fait l'équivalent de 12 tables de ping-pong. Donc pendant une heure, avec des conditions météo moyennes en France, on réussit à obtenir ce kilowattheure. Donc ça, l'hydraulique, l'éolien, le solaire, c'est ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Maintenant, si on regarde derrière d'autres sources d'énergie, on peut utiliser du gaz. Pour obtenir ce kilowattheure d'énergie, on a besoin de 1,5 litre de gaz compressé, donc l'équivalent d'une bouteille d'eau classique. Donc on voit tout de suite que c'est plus pratique pour obtenir ce kilowattheure. Et même mieux, si on utilise du pétrole en équivalent pour obtenir l'énergie nécessaire à faire cuire mon gâteau, il me faut une canette à peu près 33 centilitres de pétrole. Donc ça, le gaz, le pétrole, c'est ce qu'on appelle des énergies fossiles, ce que ça vient de la fossilisation d'anciens êtres vivants. Et si on a besoin, on veut aller en voir encore quelque chose de plus compact, de plus concentré, on peut se tourner vers l'uranium. Et là, il faut une petite pincée. L'uranium, proprement, ce n'est pas une énergie fossile, on appellera ça un minerai. Donc on voit à travers ces différents exemples un petit peu l'ordre de grandeur pour obtenir cette énergie électrique.
Alors, en t'écoutant, on a quand même l'impression que les énergies renouvelables, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. En tout cas, là, ben voilà, enfin, brûler du pétrole, ça paraît plus simple. Bon, en même temps, c'est pas nous qui nous occupons d'extraire le pétrole. Hein. Peut-être que c'est pas si simple de le récupérer sur une plateforme pétrolière en pleine mer, par exemple. Mais donc, on a l'impression que les énergies renouvelables, donc, c'est moins simple. Et pourtant, elles sont en pleine expansion actuellement. On en parle pas mal, en tout cas.
On en parle pas mal, mais quand on regarde un petit peu au niveau mondial, en termes de mix énergétique, de ce qu'on a actuellement en termes de consommation d'énergie, c'est à peu près 15% du mix énergétique mondial qui est représenté par les énergies renouvelables. Donc on n'est pas sur quelque chose de majoritaire. Clairement, le pilier actuel de la production d'énergie, ce sont les énergies fossiles. On est quasiment à 80% produits à partir d'énergies fossiles. Et qu'on pourrait se dire, et ça c'est des choses qui ne font qu'augmenter depuis l'ère pré-industrielle. Un point à retenir, c'est que plus les années passent, plus on consomme de l'énergie. On pourrait me rétorquer que finalement, la population augmente aussi. Mais malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la consommation, tout augmente. Mais par contre, la consommation d'énergie augmente beaucoup plus vite, presque 4 fois plus vite que l'augmentation de la population. Et un autre point important à retenir, quand on a un regard un petit peu historique sur la consommation d'énergie, c'est qu'on n'a jamais eu une énergie qui a été remplacée par une autre. Chaque fois qu'on a découvert une nouvelle source d'énergie, on est venu l'empiler, on est venu la rajouter sur quelque chose. Actuellement, dans le mix énergétique mondial, les énergies renouvelables viennent s'ajouter aux énergies fossiles, mais ne les remplacent pas.
Donc là, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est qu'à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle nationale, malgré l'énergie nucléaire dont on parle aussi pas mal, et donc malgré tout ce qui se passe autour du renouvelable, eh bien, on reste complètement dépendant aujourd'hui des énergies fossiles.
On reste clairement dépendant et c'est même pire que ça. Donc on a une dépendance qui est évidente et qui est forte. C'est tout ce qui va nous permettre, par exemple, de se déplacer, de se chauffer. On va utiliser de l'essence, on va utiliser du gaz, on va utiliser du fioul. Mais on a aussi une dépendance aux énergies fossiles utilisées comme matière première. Donc vous allez bien sûr utiliser des choses fabriquées en plastique. Et pour fabriquer du plastique, bah, c'est un dérivé du pétrole. Vous avez énormément de fibres textiles qui sont aussi obtenues à partir de dérivés du pétrole. Et même quand on va regarder du côté de l'agriculture, une grande partie des engrais sont fabriqués à partir de synthèse de l'azote et d'hydrogène. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le gaz naturel. Et même pour aller encore plus loin, on va avoir des médicaments, et notamment le paracétamol, qui est le médicament le plus utilisé en France, c'est aussi un dérivé du pétrole. Donc on a vraiment une dépendance qui est forte, on le retrouve partout, et en plus, on a des difficultés à récupérer ces énergies. Donc je vais vous parler de TRE. Donc le TRE, c'est le taux de retour énergétique. C'est un ratio qui permet de savoir la quantité d'énergie qu'on a utilisée pour obtenir une certaine quantité d'énergie. Du coup, je m'explique. Vous voyez tous l'image du forage de pétrole dans l'Ouest américain où on creuse un trou et d'un seul coup, le pétrole se met à jaillir. Finalement, ça ne vous a pas coûté trop d'énergie. Vous avez mis un coup de pioche et vous avez récupéré énormément de pétrole. Dans les années 1900, on estimait ce ratio à 1%. C'est-à-dire que vous investissez un baril de pétrole, d'énergie, et vous réussissiez à en récupérer 100. Donc c'était assez rentable. Plus les années avancent et plus ça devient difficile d'aller chercher ce pétrole. Et actuellement, on est autour d'un ratio de 1 pour 10. Il nous faut un baril de pétrole pour essayer d'en récupérer 10. Et plus les années avancent, plus ça devient difficile d'en extraire. On estime actuellement sur les sources non conventionnelles, donc ça va être par exemple tout ce qui va être pétrole de schiste, un ratio de 1 pour 3.
D'accord, merci. Et donc si on résume un petit peu, l'énergie mesure donc les transformations du monde et elle nous permet donc de nous développer, de profiter d'un certain confort, mais il faut retenir que toutes les formes d'énergie ne se valent pas et qu'en effet, de toutes les sources d'énergie, le pétrole est de loin la plus polyvalente et la plus pratique. Alors tu disais qu'environ 80% de l'énergie consommée dans le monde est issue des énergies fossiles, donc on parle du pétrole, du charbon, du gaz, et donc eh bien, il est possible de dire que l'humanité est accro aux énergies fossiles.
Il est là, le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés. Aucune valeur négative n'avait été observée en plus de 75 ans. Moins 1 degré hier à 3. Attention, sujet sensible. On ne rigole pas avec le réchauffement climatique. Du coup, j'ai demandé à Michel Chevalet de venir ce matin pour qu'il nous explique bien que cette froidure est précisément la conséquence du réchauffement climatique, ce que les Béotiens ne saisissent pas et qui est pourtant une évidence. Jadis, on disait il y a plus de saison, aujourd'hui on défile pour que la trottinette remplace la voiture et le vélo les camions.
Alors c'était des propos de Pascal Praud en 2019 sur CNews. On change un peu nos sources quoi par rapport à d'habitude. Yacine, je crois que le type a rien compris, non ? Tu peux nous éclairer un peu ?
Je pense surtout que le type ne veut pas comprendre et veut plutôt s'exprimer et du coup râler. Il fait une confusion qui est assez classique, mais qui est dommage quand c'est quelqu'un qui passe devant autant de personnes à la télé. Il fait une confusion assez forte entre le climat et la météo. La météo et le climat, ce sont deux choses qui sont différentes. On ne va pas s'intéresser aux mêmes échelles spatio-temporelles. La météo, c'est clairement quelque chose, une évolution locale sur quelques jours d'une petite zone du territoire. Je suis capable de vous dire qu'aujourd'hui, on a un temps picard à Compiègne et on est sur une ville, quelque chose sur une journée. Par contre, le climat, c'est quelque chose qui va être plus long. On va s'intéresser à des zones géographiques plus grandes, donc bien évidemment la Terre, mais aussi des continents, et sur des périodes temporelles qui vont être beaucoup plus longues. Notamment le fait qu'on considère que c'est plutôt à partir de 30 ans, que c'est l'échelle temporelle, où on peut conclure que le climat a été modifié. Donc on a vraiment une différence assez forte entre les deux, et qui aussi s'explique par le fait que c'est difficile de prévoir la météo. Donc je ne peux pas vous dire quel temps précisément il fera demain. Par contre, avec une certitude assez forte, je peux vous dire qu'au mois de décembre, il fera plus froid qu'actuellement. Donc la différence entre la météo et le climat est en fait, je peux vous parler un petit peu d'effet de serre, parce que c'est ce qui va nous amener dessus. Donc concrètement, l'effet de serre, tout le monde voit un petit peu dans son jardin, on met une serre pour avoir une température un peu plus élevée pour faire pousser ses tomates. Concrètement, le soleil émet des rayonnements, ils arrivent sur Terre, ils viennent réchauffer la Terre. Ces rayonnements changent de nature, ils remontent et là, ils se retrouvent bloqués par une atmosphère qui contient des effets de serre qui vont du coup garder une partie de ce rayonnement sur Terre. Et donc, au fur et à mesure, les rayonnements restent et la Terre se réchauffe. Et ça, c'est plutôt bénéfique, il faut vraiment insister dessus. L'effet de serre, c'est permet la vie sur Terre. Sans effet de serre, la température moyenne à la surface de la Terre serait de moins 18 degrés, ce qui est plutôt froid. Avec l'effet de serre et un rayonnement solaire assez faible, on est autour de 10 degrés, c'est ce qu'on appellera une période glaciaire. Et donc actuellement, on est plutôt à 15 degrés de moyenne sur la planète, on a un fort effet de serre. Ce qu'il faut retenir, et on reviendra sur ce point un petit peu plus tard, c'est qu'on a eu 10 000 ans pour réussir à gagner 5 degrés sur la surface de la Terre. Donc, je vous ai parlé de climat, si on veut être précis, on parle plutôt de système climatique. Pourquoi parler de système climatique? Vous voyez l'image d'un mécanisme avec plein d'engrenages qui engrènent les uns avec les autres. C'est vraiment une image qui est pertinente parce que finalement, le système climatique, c'est plusieurs éléments qui sont liés entre eux. On va bien sûr avoir les gaz à effet de serre, on va avoir le continent, l'atmosphère, l'hydrosphère, donc tout ce qui contient de l'eau, la cryosphère, tout ce qui va être froid et plein d'autres mots qui finissent en sphère. Donc tous ces éléments en fait, vont avoir une influence sur le climat. Et actuellement, ce mécanisme vient d'être perturbé par les activités humaines.
Alors attends Yacine, là je suis obligé de t'arrêter, parce que qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui que les activités humaines perturbent le système climatique? Est-ce que c'est pas juste des évolutions naturelles auxquelles on peut rien et voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui on est certain que ce sont les humains qui sont responsables de ces perturbations?
Alors on peut être sûr que ce sont les humains qui sont responsables de ces perturbations, et on sait même pourquoi ils sont responsables de ces perturbations, c'est l'utilisation des énergies fossiles. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai commencé par vous parler d'énergie pour mettre en avant notre dépendance aux énergies fossiles. Alors comment on sait ça? Déjà d'un point de vue chimique, on sait que si on fait brûler un litre d'essence, on est capable de savoir que du CO2 va être produit, et le CO2 est un gaz à effet de serre. Donc on sait que la combustion d'énergie fossile produira des gaz à effet de serre. Et on a étudié finalement la quantité de CO2 qui a été émise sur Terre depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, plusieurs millénaires, tout simplement en faisant des carottages. Donc on fait des trous dans la glace, dans les pôles, et on va mesurer plus en plus profondément la quantité de particules de CO2 qui restent. Donc on est capable de suivre l'évolution de la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère depuis plusieurs millénaires. Et on a remarqué que l'augmentation de cette quantité de CO2 était corrélée à la même augmentation de la consommation d'énergie mondiale. Donc on a réussi à trouver le lien entre l'utilisation d'énergie fossile et l'augmentation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc je vous ai parlé du carbone. Donc le carbone, c'est un gaz qui va suivre un cycle de vie, un petit peu comme l'eau. On a tous cette image en tête de ce qu'on a pu voir à l'école, où l'eau descend des montagnes, va dans les océans, et évaporer, repasse dans les nuages et continue. Et on a la même chose sur le carbone, sauf qu'à retenir que c'est un rythme qui est très lent. Et finalement, on est venu le perturber avec une vitesse beaucoup plus importante que ce que lui est capable d'encaisser. Et dans le cycle naturel du carbone, on a une quantité de gaz qui est émis, mais tout n'est pas capté par l'atmosphère. On va parler de puits de carbone. Donc l'atmosphère est un puits de carbone. On estime à peu près que 45% des gaz à effet, enfin du carbone qu'on va émettre va être capté par l'atmosphère. Le restant va être capté par la biosphère, donc principalement les forêts, mais aussi les algues qui vont capter du carbone. Et on a aussi l'eau qui va en capter une partie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a donc des puits de carbone qui sont alimentés par nos émissions de carbone et qui se remplissent. Et la question est un petit peu jusque quand ils seront capables d'encaisser ça? Est-ce qu'il n'y aura pas des seuils à ne pas dépasser?
Alors tu nous as parlé du carbone, c'est vrai qu'il fait beaucoup parler de lui également le carbone. C'est le seul problème aujourd'hui, si on arrive à se débarrasser du CO2, on est plus embêté?
Alors on cherche un peu les coupables en termes de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment au pluriel, il y en a plusieurs. On a le carbone qu'on parle souvent, donc lui il vient de la combustion des énergies fossiles, donc j'en ai parlé à l'instant, on brûle de l'essence, ça produit du carbone. Les scientifiques ont étudié et ils ont réussi à déterminer que le carbone avait une durée de vie dans l'atmosphère de 100 ans. Et pour pouvoir fixer des références, ils ont défini que le carbone aurait un pouvoir de réchauffement de 1. Ça avait servi d'unité. Et donc, il y a d'autres gaz qui vont contribuer à l'effet de serre, notamment le méthane, qui va être issu de la décomposition de matière organique. Celui-là, il a une durée de vie plus courte dans l'atmosphère, il ne dure que 12 ans. Par contre, son pouvoir de réchauffement est 27 fois plus élevé que le carbone. On va retrouver aussi d'autres gaz, le protoxyde d'azote ou par exemple les gaz fluorés. Donc, c'est des gaz qu'on retrouve principalement dans les fluides réfrigérants de tout ce qui va être congélateur, frigo. Là, ils ont une durée de vie dans l'atmosphère qui est de 3200 ans, c'est plutôt pas mal, et un réchauffement de 25 000 fois plus que le carbone. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi finalement on parle que du carbone et on ne parle pas des autres ? Donc clairement, le carbone a un pouvoir de réchauffement qui va être plus faible que les gaz que je viens de vous citer. Par contre, compte tenu des quantités de carbone qu'on émet dans l'atmosphère, actuellement, on estime qu'il est responsable de 76% des gaz à effet de serre. Donc, on parle beaucoup du carbone, ce n'est pas le seul, mais on parle de lui parce que c'est le plus majoritaire.
Oui, et puis je retiens aussi de ce que tu viens de nous dire que si le carbone reste bloqué dans l'atmosphère, je ne sais pas si le terme est propre, mais pendant 100 ans, ça veut dire qu'effectivement, on a probablement des enjeux à anticiper les choses, puisque là, ce que je comprends, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va rester pendant 100 ans ça va continuer d'agir pendant 100 ans comme effet de serre, n'est-ce pas ?
On a une inertie qui est assez forte. Si on arrête à produire du carbone maintenant, on en a quand même. Ce qui a été produit hier restera encore 100 ans dans l'atmosphère.
Bon, alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait eu de la magie avec le pétrole, mais on peut peut-être continuer d'espérer avoir d'autres phénomènes naturels un peu magiques. Par exemple, parfois, quand quelque chose devient trop envahissant, bon, ça marche pas tout le temps. Avec les orties, par exemple, ça marche pas, mais parfois, ça fonctionne. Il y a des phénomènes de régulation qui se mettent en place. Il peut y avoir, effectivement, des phénomènes naturels qui font que ça va, entre guillemets, se régler tout seul, quoi.
Il y a justement quelque chose qui s'appelle, dans les sciences du climat, les boucles de rétroaction positive.
Tu vois, j'en étais sûr qu'il y avait un truc positif qui allait arriver.
Et malheureusement, ce n'est pas vraiment ça. Positif, c'est... Donc si vous revenez sur ce que je vous racontais tout à l'heure, le système climatique est donc complexe, tout est lié. Il y a des phénomènes qui peuvent naître et qui vont amplifier le phénomène du changement climatique. C'est ce qu'on appelle boucles de rétroaction positive dans le sens où elles vont augmenter le phénomène. Donc, je vais vous prendre deux petits exemples. Si vous avez déjà peut-être entendu parler du pergélisol, qu'on appelle aussi permafrost. Donc, c'est des sols qui sont gelés toute l'année, qu'on va retrouver en Sibérie et en Alaska. Actuellement, ces sols sont gelés. Et avec l'augmentation de la température, ils commencent à geler. Sauf que malheureusement, ils contiennent de nombreux gaz à effet de serre qui ont été piégés dans la glace au moment où ils ont été gelés. Donc, du coup, plus on va augmenter la température, plus on va faire dégeler ces sols. Plus on va libérer de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui vont augmenter l'effet de serre et qui vont augmenter la température, qui vont augmenter la fonte du pergélisol. Ça, c'était le premier phénomène, c'est le permafrost. On en a un autre aussi, une autre boucle de rétroaction positive, c'est l'albédo. Donc l'albédo, c'est la capacité d'une surface à renvoyer des rayonnements. Et vous imaginez bien que quand il fait chaud dehors, c'est préférable de mettre un t-shirt blanc qu'un t-shirt noir. Le t-shirt blanc de la planète, c'est la banquise. Sauf que plus la température augmente, plus elles font. Plus elles font, plus votre t-shirt blanc est petit. Donc plus la température au sol augmente, plus la banquise augmente. Et on est sur une boucle de rétroaction positive.
Oui, effectivement, elles sont pas très positives, tes boucles de rétroaction en termes de perspective de régulation de l'effet de serre. Tu nous laisses pas beaucoup de portes de sortie là pour le moment. Après, est-ce qu'on pourrait pas se dire aussi que après tout, on a connu des périodes glaciaires, on a eu froid, maintenant on va connaître des périodes, disons, chaudières, on aura chaud et puis voilà, qu'on va s'adapter après tout.
C'est pas bête ce que tu dis, mais on va regarder un petit peu à quoi ressemblait l'Europe il y a pendant une ère glaciaire. Alors une ère glaciaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est 10 degrés de température moyenne à la surface de la Terre. Ce n'est pas des températures négatives, mais avec 10 degrés de température moyenne à la surface du globe, l'Europe est complètement différente. Donc en France, on a une steppe complètement désertique. On peut accéder à l'Angleterre par la terre, la Manche n'existe pas. Et Venise, en Italie, n'est pas du tout au bord de l'eau. 10 000 ans plus tard, on a eu une ère interglaciaire, donc interglaciaire entre deux périodes glaciaires, qui correspond à une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. Donc cette ère interglaciaire, c'est l'Europe actuelle qu'on voit un petit peu, Venise est au bord de l'eau et on doit prendre le bateau ou le train pour pouvoir aller en Angleterre. Ce qui est vraiment important de reconnaître, de mettre en avant sur ce point-là, c'est qu'on a changé du coup d'air en 10 000 ans pour gagner seulement 5 degrés. Actuellement, on est parti pour gagner presque 5 degrés en 100 ans, soit 100 fois plus vite. La question, c'est quelles vont être les conséquences, que finalement, 10 000 ans pour changer foncièrement de climat, on peut encore s'adapter. En 10 000 ans, les générations humaines peuvent se déplacer, surtout qu'à l'époque, elles étaient nomades. La biosphère, les plantes peuvent tenir compte. Par contre, en 100 ans, ça devient un petit peu plus difficile.
Oui, effectivement, là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Si ça doit changer en 100 ans, on va avoir du mal à s'adapter. Mais tu connais l'objection des climato-sceptiques, Yacine, tu nous racontes tout ça, mais comment tu sais ça, toi ?
Alors, climato-sceptique, je pense que c'est un terme qu'on ne peut plus vraiment utiliser. Je pense qu'il faut parler de climato-négationniste. Parce que ça a été prouvé, j'allais dire scientifiquement prouvé, que la responsabilité humaine est engagée dans l'effet de serre qu'on appelle additionnel, c'est-à-dire ce qui vient se rajouter à l'effet de serre naturel. Donc comment on a su ça ? Il y a un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle de son petit nom le GIEC, qui travaille sur cette question-là. Et quand je dis qu'ils travaillent, on va dire qu'ils travaillent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de recherche propre, eux ils font la synthèse des connaissances qui sont existantes. En fait, ils vont regarder un petit peu tout ce qui a été produit, étudié, compilé pour pouvoir rendre des rapports. Donc, il y en a un qui a été rendu il n'y a pas si longtemps. Et le but du GIEC, ce n'est pas de prendre des décisions, c'est de faire la somme et la synthèse des connaissances actuelles pour que des décideurs, du coup, tiennent compte de leur rapport pour en faire quelque chose.
C'est à moi ou tu reprends ta feuille ?
C'est à toi.
Tu nous as convaincu que, enfin en tout cas les derniers travaux du GIEC effectivement nous ont convaincu qu'aujourd'hui il y avait des faits établis, donc ça va se réchauffer, ça va aller assez vite, tu nous l'as dit, mais malgré tout j'insiste, est-ce qu'on peut pas nous, alors oui effectivement il y a peut-être des plantes également, des animaux qui vont avoir du mal à s'adapter, tu nous l'as dit, mais est-ce que nous, êtres humains, on peut pas juste s'habituer à avoir plus chaud ? On portera des t-shirts, des sandales en hiver, à la fin, c'est pas forcément hyper grave non plus d'avoir un peu chaud, quoi, des fois.
C'est pas hyper grave, sauf qu'il faut quand même avoir conscience, rien que sur la problématique de la température, qu'on va avoir des épisodes de canicule beaucoup plus forts. Et je pense que supporter 40-45 degrés, c'est plus difficile que simplement porter un t-shirt. Mais on peut aussi revenir sur l'aspect systémique, donc toujours cette histoire de système climatique où tout est lié, où finalement on va avoir des choses qui vont s'auto-influencer. Si je reprends l'exemple des puits de carbone dont je vous parlais tout à l'heure, donc on émet des gaz à effet de serre, une partie sont absorbées par l'océan, sauf que le carbone dans l'eau augmente l'acidité de l'eau, ça entraîne une perte de la biodiversité marine, on a des poissons qui décèdent, du coup si on a moins de poissons, on a moins de rendement de pêche, finalement on a des populations qui vont devoir migrer, des populations humaines, et donc des phénomènes qui sont beaucoup plus lourds de conséquences que simplement un changement de température. J'en profite pour faire un petit peu de pub pour un autre atelier qui je vous encourage vraiment à faire si ça vous intéresse, qui s'appelle La Fresque du Climat, qui est une activité qui est créée par une association qui s'appelle La Fresque du Climat. C'est pas original, mais par contre, l'atelier est vraiment original et très intéressant. Et il s'intéresse à cette dimension systémique du changement climatique avec des cartes, et c'est vraiment très intéressant. Un point qu'on n'a pas trop évoqué, mais je pense qu'on peut en parler à ce moment-là sur les conséquences, c'est qu'on parle souvent de conséquences au niveau global, mais quand on regarde les zones qui vont être le plus touchées par les conséquences du changement climatique, ce sont des zones qui sont déjà les plus vulnérables. On est sur l'Afrique, tout ce qui va être proche de l'Équateur, qui sont déjà des zones qui sont assez vulnérables, et c'est elles qui vont du coup encaisser souvent les conséquences les plus graves du changement climatique.
Alors effectivement, je pense que c'est un point sur lequel on aurait pu s'arrêter plus longuement. Peut-être d'ailleurs, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, je ne sais pas si tu auras des éléments complémentaires à nous donner sur ce sujet. Néanmoins, pareil, une objection que, pas forcément très, très sympa, mais une objection que pourraient faire les habitants d'un pays comme la France, c'est de se dire, ok, bah, ça va effectivement toucher l'Asie, ça va toucher l'Amérique du Sud, ça va toucher l'Afrique, mais finalement, nous, en France, on est un pays tempéré, on est assez riche, on a des moyens, on va se débrouiller, quoi, globalement. Pour nous, ça va pas trop, trop mal se passer.
Eh ben, malheureusement, non, je suis désolé de casser un petit peu tes rêves sur ce point-là. Sur les estimations des scientifiques, d'ici 2050, ils imaginent de nombreuses conséquences en France, donc vraiment en France, notamment le fait que la moitié des forêts métropolitaines seront soumises à des risques d'incendie élevés. Donc actuellement, c'est plutôt dans le sud de la France, mais d'ici 2050, sera la moitié des forêts de la France qui seront soumises à ces risques d'incendie assez élevés. On peut avoir aussi des conséquences sur l'évolution de la biosphère. Donc clairement, les moustiques-tigres, c'est actuellement un fléau dans le sud de la France. Plus la température augmentait, plus les moustiques vont se déplacer et on sera sûrement impacté dans beaucoup plus de départements que ça actuellement. Et un autre point, même si tout ça n'arrive pas à convaincre l'auditeur, si un auditeur se dit moi, ce qui m'intéresse, c'est l'été, l'hiver plutôt, de faire du ski, et bah, sachez que toutes les stations de moyenne montagne sont condamnées d'ici 2050. Les pertes d'enneigement deviennent de plus en plus importantes.
Ok, ok, j'ai à peu près compris là, effectivement. Donc on va vers 1,5 degré, c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure. On y va obligatoirement, on ne peut pas faire autrement. Ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets acquis avec l'inertie. Si je me trompe, tu corrigeras. J'ai entendu ce que tu dis, j'ai envie de croire que c'est pas si catastrophique que ça. Ensuite, si on devait atteindre 2 degrés, bah, si on se dit qu'1,5, c'est pas si grave, on a envie de croire que 2, c'est pas non plus beaucoup, beaucoup plus, quoi, en quelque sorte.
On a coutume de dire sur les aspects climatiques, finalement, que chaque dixième de degré va compter. Et si je prends juste un exemple, si on prend le corail, avec une augmentation de la température de 1,5 degré, on estime à une perte du corail de 90%. Donc il ne reste plus beaucoup, mais il en reste encore un petit peu. Par contre, si on passe à 2 degrés, les estimations, c'est à moins 98% du corail. Donc là, il ne restera quasiment plus rien. Donc finalement, un demi-degré, ça compte. Et les conséquences sont beaucoup plus importantes à 2 degrés qu'à 1,5 degré. Donc déjà, on a des conséquences plus fortes. On a aussi des choses qui vont devenir irréversibles. On va se passer certains seuils. Et quand une population d'animaux a disparu, on ne peut pas la faire revenir simplement du jour au lendemain. Mais aussi, il y a un point qui est assez important, c'est plus les augmentations de température vont être élevées, plus ces phénomènes vont devenir imprévisibles. On a du mal, et je vous parlais du GIEC tout à l'heure, il émet de nombreux scénarios. Et finalement, plus les températures augmentent, plus les scénarios ont des incertitudes assez fortes. Et ça, c'est quand même plutôt difficile à gérer.
Si on a bien compris, donc si on veut se faire un petit point d'étape à ce moment-là, on comprend bien que le changement climatique, ce n'est pas que le problème des ours polaires qui sont loin de nous ou que le problème des générations futures qui seraient aussi loin de nous. Non, c'est un problème à temps court. Alors c'est une situation, donc, tu disais, sans précédent, qui a des impacts multiples, qui sont déjà visibles et qui n'épargnent personne et n'épargneront personne. Alors, le changement climatique, c'est aussi un amplificateur de risques et d'inégalités. Et donc, on peut bien comprendre à partir de là que la survie de l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui dépend de notre capacité à traiter ce problème dès aujourd'hui. Les scénarios les plus pessimistes sont encore évitables, tu nous le disais, mais cela dépend, notre futur dépend des choix que nous effectuerons à partir de là.
Et ça, c'est quand même une sacrée différence.
Non, je guette
ce qui est en train de se passer à Glasgow en ce moment, au moment de la COP26. Comme le dit Greta Thunberg, bla bla bla. Et c'est à peu près tout ce qu'ils sont capables de faire. Et ça veut dire que c'est à nous, que c'est par nos luttes, que c'est par nos mobilisations, que c'est par le succès de marches comme celle-ci, parce qu'il y en a partout dans le monde en ce même 6 novembre, c'est par notre mobilisation que nous arriverons à faire reculer le changement climatique, à changer le système.
Alors c'était un extrait d'un enregistrement de la marche pour le climat à Rouen le 6 novembre 2021 pendant la COP26 de Glasgow. L'enregistrement est sous Creative Commons by NC de Alain Cossy d'Alternativa Rouen. Alors blablabla, disait la dame là sur l'enregistrement. Yacine, les États ne font rien du tout.
Alors les États ne font pas rien du tout. Du coup, je vais vous reparler un petit peu du GIEC. Donc je vous ai dit qu'ils réalisent des scénarios pour un petit peu estimer l'influence des politiques. Donc actuellement, avec les politiques qui sont mises en place, ils estiment que le réchauffement climatique d'ici 2100 sera situé entre 2,7 et 3,1 degrés, par rapport toujours au niveau pré-industriel qui correspond au 1750-1800. C'est donc insuffisant, ce que l'on a dit, l'objectif c'est de rester sous la barre des 2 degrés pour éviter des changements irréversibles. C'est insuffisant, mais si on regarde, en 2015, le GIEC avait réalisé le même travail, et avait estimé qu'avec les politiques qui étaient menées en 2015, le réchauffement il serait plutôt de l'ordre de 3,7 degrés, alors que là, au maximum, il serait de 3,1. Donc ça veut dire que les politiques ont quand même une influence. Et aussi, on peut avoir en tête que, toujours d'après le GIEC, si aucune politique n'était menée sur la politique de réduction de gaz à effet de serre, on aurait un réchauffement global qui serait presque de 5 degrés. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Par contre, on peut quand même constater qu'on est largement en dessous de cet objectif de 1,5 degré. Si on reprend les COP, donc c'est un petit peu les conférences of parties, c'est les réunions des États, où ils se mettent d'accord sur des objectifs de réduction d'impact. Si jamais, sur la dernière COP qui a eu lieu à Glasgow, si jamais ils respectaient toutes les promesses qui ont été émises, on serait déjà deux fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que ce qu'il faudrait pour limiter le 1,5 degré. Donc si je résume, les États ne font pas rien, mais ne font pas assez.
Et donc là, ce que tu nous dis, hein, c'est qu'à la dernière COP, les objectifs qui ont été pris sont deux fois insuffisants. Et ça, on le sait aujourd'hui.
Oui.
OK. Bon, il va falloir chercher des solutions ailleurs. Alors, des solutions complémentaires, hein, on t'a entendu, ça fait quand même avancer en partie les choses. Alors, je continue avec mes questions un peu naïves, mais on entend parfois une idée qui est que... en quelque sorte, on pourrait ne pas trop s'inquiéter parce que bientôt, en fait, les ressources de pétrole vont être épuisées. Alors, du coup, ça va peut-être faire un peu de bruit et il y a peut-être deux, trois trucs qui vont dysfonctionner. Mais globalement, après cette période-là, tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement, quoi.
Ce serait bien. Ce serait quelque chose d'assez sympa à imaginer. Donc, on vous a parlé des objectifs. C'est de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. Pour limiter ce réchauffement mondial à 1,5 degré, on est capable d'établir un petit peu le budget carbone, la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre dans l'atmosphère, de façon à rester sous cette barre de 1,5 degré. À partir de 2021, on estime qu'on a le droit d'émettre 420 gigatonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. Si on fait ça, si on reste en dessous de cette valeur-là, on sera capable de limiter la température à 1,5 degré. Sauf qu'on connaît aussi les quantités et les réserves d'énergie fossile actuellement sur Terre. Et elles sont de 4135 gigatonnes. Ce qui veut dire que si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut laisser 90% des ressources fossiles découvertes actuellement sous Terre. On sait qu'elles existent, on sait où elles sont, mais on ne pourra pas aller les chercher. Donc là, je vous ai fait la démonstration sur 1,5. On va clairement dépasser le 1,5 degré, c'est à peu près acté par le dernier rapport du GIEC. Si maintenant on passe au cran d'après, c'est limiter à 2 degrés, on devra laisser seulement, entre guillemets, 70% des ressources fossiles actuellement connues sur Terre si on ne veut pas dépasser ce 2 degrés. Donc on imagine bien que c'est quelque chose qui va plutôt être difficile à mettre en place parce que si vous avez Total qui a découvert une ressource, elle a investi pour pouvoir forer, pour pouvoir prospecter, et il faudra falloir du coup avoir des moyens assez forts pour les empêcher de continuer à aller chercher ça. Donc malheureusement, on n'arrivera pas à simplement attendre que les réserves soient épuisées.
Ok, on comprend un peu le problème là que tu nous as posé au niveau des États, au niveau des grandes entreprises qui effectivement sont susceptibles d'extraire ce pétrole qu'il faudrait laisser dans la terre. Je pense qu'on pourrait aussi commencer à réfléchir peut-être un petit peu au niveau individuel. Et si on veut faire ça, une question qu'on se pose en général, c'est OK, c'est quoi le principal problème? Je ne vais pas pouvoir m'occuper de tout. Donc, c'est quoi le principal problème? Est-ce que c'est manger de la viande? Est-ce que c'est utiliser de l'eau chaude? Est-ce que c'est rouler en 4x4? Est-ce que c'est prendre l'avion? Est-ce que c'est utiliser des smartphones? Etc, etc, etc.
Alors, chercher le responsable, c'est pratique. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, au moins, on tape dessus et on sait qu'on pourra régler le problème. Si on essaye de regarder un petit peu en termes de secteur d'activité, si je regarde au niveau mondial... Actuellement, le principal émetteur de gaz à effet de serre, c'est le secteur de l'énergie pour 34%. Et le deuxième, c'est l'agriculture pour 24%. Donc plus de la moitié au niveau mondial, c'est le secteur de l'énergie et l'agriculture. Donc je peux me dire, c'est bon, j'ai trouvé mes coupables au niveau mondial. Si je regarde au niveau français, ce sera le secteur du transport qui sera le premier poste d'impact pour 31%. Et ensuite, le secteur industriel pour 23%. Donc déjà, j'ai un petit peu du mal à trouver un coupable parce que selon si je regarde la France ou le monde, j'ai déjà pas les mêmes choses. Ensuite, on va regarder. Donc là, on a travaillé sur les secteurs d'activité. Maintenant, je peux regarder aussi par pays. Ce serait pratique de trouver le pays qui est coupable et finalement leur dire c'est de votre faute. Maintenant, c'est à vous de corriger la catastrophe. Actuellement, 53% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables au continent asiatique. C'est pour 27% au niveau de la Chine. On peut se dire c'est facile, c'est le continent asiatique qui est responsable. Sauf que c'est actuellement, à cet instant T, et si on regarde en cumulé, donc depuis 1750, 52% des émissions de gaz à effet de serre ont été émises par le couple Europe et États-Unis. Donc en cumulé, finalement, c'est plutôt l'Europe et les États-Unis qui sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.
Ouais, j'entends ça, même si on compte pas en cumulé, là, quand tu dis il y a 27% pour la Chine, donc c'est les Chinois qui émettent le plus, il me semble, avec tout le respect que je te dois, que c'est un raisonnement un peu tendancieux, parce que il faudrait au moins ramener le chiffre au nombre d'habitants, non ?
Oui, parce que tu sous-entends qu'il y aurait plus d'habitants en Chine, j'ai l'impression.
Peut-être, ouais, qu'en France.
Et bah, quand on divise, finalement, la quantité de gaz à effet de serre émis par la Chine par le nombre d'habitants, bah, c'est toujours les États-Unis qui sont les plus impactants pour... En premier et de loin, c'est l'équivalent de 20 tonnes d'équivalent CO2 par habitant pour les États-Unis. Et on est seulement, entre guillemets, à 9 tonnes pour la Chine. Donc c'est même en divisant par les habitants, c'est toujours les États-Unis qui sont les plus impactants. Et pire, là je vous ai parlé des émissions qu'on appelle territoriales, c'est-à-dire que je trace une frontière invisible autour du pays et je regarde combien de gaz à effet de serre est sorti de ce pays-là. Sauf que c'est injuste parce que finalement, tout le monde sait qu'une grande quantité de produits manufacturés viennent de Chine et finalement, une grande partie des émissions de gaz à effet de serre chinoises, finalement, ne sont pas pour la consommation chinoise, mais c'est pour notre consommation. Donc finalement, déplacer ces émissions, c'est ce qu'on va appeler l'empreinte carbone. Et grâce à ça, en tout cas en prenant en compte cette empreinte carbone, le bilan des Chinois va encore baisser et celui des États-Unis ou des pays qui se fournissent en Chine va encore augmenter. Donc à travers cette petite revue, hein, c'est-à-dire secteur d'activité, pays ou même en regardant par habitant, on s'aperçoit qu'il est inutile, voire totalement impossible et je pense improductif de chercher à trouver un responsable, mais bien avoir conscience que le changement doit avoir lieu finalement à toutes les échelles.
Alors ici, on est à l'Université de Technologie de Compiègne. On est dans les locaux de Graphite et donc, je répète, on est à l'Université de Technologie de Compiègne. Est-ce que, donc, du coup, on peut pas espérer que les ingénieurs que l'on forme ici et ailleurs, eh bien, vont pas à un moment nous trouver des super solutions technologiques? Je sais pas, moi, alors si je m'écoutais, j'écrirais de la science-fiction, mais on pourrait inventer de l'énergie propre, sans pollution, qui émet pas de gaz à effet de serre, et puis on pourrait la faire illimitée aussi, et puis pas chère, et puis facile à transporter comme le pétrole, ce serait pas mal, non ?
Oui, ce serait pas mal. Alors on va essayer de faire un petit exemple, c'est-à-dire on va souvent se dire, bah, il suffit de mettre des énergies renouvelables. Actuellement, on va prendre l'exemple de la France. Et on va s'intéresser à l'énergie primaire consommée, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on va consommer sous toutes ses formes, donc le carburant, le chauffage, l'électricité. Actuellement, si on regarde la situation française, en termes de consommation d'énergie primaire, elle vient du nucléaire pour 35,6%. Donc peut-être certains auditeurs vont se dire « mais non, mais on a toujours dit que c'était 75% le nucléaire ». C'est 75% de l'électricité. Quand on regarde vraiment en source primaire, quand on met tout dans la balance, le nucléaire ne représente que 35,6% des énergies primaires consommées en France. Ensuite, les énergies fossiles, on est moins dépendant que au niveau mondial. Par contre, pour 51% de notre énergie primaire, ça provient des énergies fossiles. Et le reste, ça fait à peu près un peu plus de 12%, ce sera des énergies renouvelables. Donc on va essayer de faire plusieurs scénarios. Si on essaye d'atteindre cet objectif de neutralité carbone pour 2050, toujours avec l'objectif de réduction de 1,5 degré, on peut prendre une première hypothèse qui est celle d'une association qui s'appelle Negawatt qui propose de multiplier le renouvelable par 3 et de retirer de notre mix énergétique le pétrole et le nucléaire. Si on suit ces recommandations, ça va nous obliger à diminuer notre consommation finale d'énergie de 60%. Et on retenons du coup 60%, c'est plutôt pas mal en termes de réduction, mais même augmenter, remultiplier par 3 notre production d'énergie renouvelable, c'est déjà quelque chose qui est assez ambitieux. Donc on peut aller un petit peu, on va atténuer un petit peu le scénario, on va se dire Negawatt, ils sont un peu trop ambitieux. On va garder le nucléaire. Donc je retire toutes les énergies fossiles de mon mix énergétique, je multiplie par 3 mes énergies renouvelables et je garde la part actuelle du nucléaire. Et bien là, je suis obligé de diminuer de 26% ma consommation d'énergie. Donc là, je vais faire une troisième hypothèse. Donc là, je me dis c'est encore un petit peu ambitieux, j'ai retiré toutes les énergies fossiles. Maintenant, je vais les diviser par 5. Donc je multiplie mon renouvelable par 3, je garde mon nucléaire et je divise par 5 mes énergies fossiles, ça m'oblige à diminuer de 18% ma consommation d'énergie finale. Donc si on reprend sur ce petit exemple, et la question que tu me posais sur est-ce que la technologie va nous sauver, bah actuellement, avec cette hypothèse-là, on doit quand même réduire de 20% notre consommation d'énergie. Donc finalement, poser la question et poser ce problème uniquement sous l'aspect de production d'énergie, c'est totalement insuffisant et on voit bien qu'on doit travailler sur différents aspects. Ensuite, si on revient un petit peu sur ce que j'ai présenté tout à l'heure, donc tu me disais on n'a qu'à créer une nouvelle source d'énergie qui va être décarbonée et qui sera géniale. Si vous vous rappelez ce que je vous ai parlé tout à l'heure en disant que la consommation d'énergie, à travers l'histoire, elle a toujours été empilée, elle n'a jamais été remplacée. Si demain on invente une nouvelle source d'énergie, elle ne remplacera rien, elle viendra s'accumuler sur quelque chose d'autre.
Ok, donc on va pas y échapper. On va passer par la case sobriété. Je crois que c'est nécessaire. En tout cas, moi, tu m'as convaincu. Moi, je n'étais peut-être pas le plus dur à convaincre, hein, mais en tout cas, ça nous fait un début. Alors, maintenant, on rentre un petit peu dans le concret. Ça veut dire quoi, du coup, vélo pour tout le monde, douche froide, végétarisme, on coupe Internet. Qu'est-ce que tu nous proposes de sympa pour la suite ?
Déjà, tu l'as dit, la notion de sobriété, c'est quelque chose qui est intéressant. On a conscience que la sobriété, c'est un choix politique. L'ADEME fait différents scénarios pour atteindre cette neutralité carbone. Je pense que tu en parleras mieux que moi bientôt.
Alors mieux, non, mais la semaine prochaine, oui, tout à fait, on explorera les quatre scénarios de l'ADEME.
Du coup, dans un de ces scénarios qui s'appelle Génération frugale, il propose de mettre en place une politique de sobriété. Alors la sobriété, c'est trois actions qui doivent se dérouler dans un certain ordre. On commence par être sobre, c'est-à-dire réduire, se concentrer un petit peu sur l'essentiel. Ensuite, être efficace et enfin, essayer de décarboner. Si je prends un exemple, le chauffage, tout d'abord, la première action à mener, c'est donc une action de sobriété, c'est réduire la température de son logement. Ensuite, on va essayer d'être plus efficace, on va améliorer l'isolation de son habitation. Et en dernier, on va changer de source d'énergie. Si on avait une centrale à fioul, on va passer à une pompe à chaleur. Donc on a vraiment une histoire d'étapes à suivre et surtout pas commencer par d'abord changer son installation décarbonée parce que finalement, on risque de surdimensionner et d'avoir une pompe à chaleur trop importante alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de plus sobre.
Ouais, là, ce chemin, c'est bien clair. Hein. Je pense qu'on peut le garder en tête. Hein. Il faut... Parce que c'est souvent des débats qu'on peut avoir en disant effectivement, mais si on améliore l'efficacité alors, eh bien, on voit que là, tu nous fais passer par un chemin complet. Donc, je pense qu'on a bien compris l'idée sur l'exemple du chauffage. Mais alors, individuellement, on pourrait se demander comment est-ce qu'en fait on va réussir à faire des choix. Par exemple, moi je peux être ok pour le vélo, mais pas pour ranger mon smartphone. Ou alors effectivement ok pour améliorer mon logement. Disons que j'ai les financements pour ça ou que l'État m'y aide ou je sais pas quoi, mais pas prêt à abandonner ma voiture individuelle ou que sais-je. Alors à la fin, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en tant qu'individu arbitrer les choses ?
Alors pour arbitrer, on va utiliser un outil qui s'appelle le budget carbone. Donc vraiment, comme quand vous avez un budget, vous avez une somme d'argent et vous vous décidez un petit peu comment la dépenser. Donc je vous ai parlé, et j'en reparle encore une fois, de la notion de puits de carbone, c'est-à-dire qu'on peut continuer à émettre des gaz à effet de serre puisqu'on a des mécanismes naturels qui vont en absorber. La problématique, c'est de ne pas en émettre trop. Donc quand on va vous parler de neutralité carbone, c'est pas vous dire qu'il faut absolument plus émettre de gaz à effet de serre, mais simplement en émettre moins pour pouvoir respecter cet objectif. Les estimations sont qu'actuellement, on estime à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne par an le budget carbone qu'on a à dépenser sur une année de façon à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc pour donner comme des ordres de grandeur, actuellement 2 tonnes de CO2 par personne par an, c'est le budget carbone, enfin c'est ce que l'impact carbone qu'a actuellement un Indien. Ça revient à diviser par 4 celui d'un Français et ça revient à diviser par 12 l'équivalent carbone actuellement d'un Américain. Donc on est quand même sur des choses qui sont assez fortes. Et l'avantage à ta question en disant comment je peux arbitrer, c'est que quand on regarde le bilan carbone d'un Français moyen, entre différents postes d'émission, donc on a les transports, tout ce qui va être biens de consommation, donc ce qu'on peut acheter, les logements, donc à la fois sur la construction mais surtout sur le chauffage, l'alimentation et aussi tout ce qu'on va appeler service, donc c'est à la fois les choses publiques sur lesquelles, clairement, où on est, l'Université de technologie de Combienne a un impact, on rentre dans ce poste service, mais aussi tous les services privés, les restaurants, etc. Quand vous prenez ces différents postes, c'est à peu près équilibré en termes de gaz à effet de serre. C'est à peu près chacun est équivalent à l'autre. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité, si vraiment vous ne voulez pas changer vos modes de transport, vous pouvez agir sur vos biens de consommation. Alors pour vous aider et pour aller, du coup, je vous invite, c'est assez facile et c'est assez rapide à faire. Il y a un site qui s'appelle nosgestesclimat.fr, donc qui a été édité par l'ADEME, l'Agence de maîtrise de l'énergie française. On peut réaliser en ligne, en moins de 5 minutes, son bilan carbone personnel pour voir vraiment sur ses habitudes de consommation où est l'impact le plus fort et donc pour pouvoir vous aider à prioriser vos différents choix.
Bon, ok, donc admettons, on va aller sur nosgestesclimat.fr, on va faire notre bilan carbone, c'est ça, on va choisir des diminutions, enfin des endroits où on peut essayer de diminuer notre impact. Mais là où je suis un peu embêté quand même, c'est qu'on a vu tout à l'heure que les États n'étaient pas très engagés, les grandes entreprises pas forcément non plus suffisamment, et j'ai un peu l'impression que la solution, elle est toujours un peu sur les épaules des citoyennes et des citoyens.
Oui, ça, je pense que tu as raison. On a le sentiment depuis des années que les gestes individuels sont la seule et unique solution. Donc déjà, on va quand même poser clairement, les gestes individuels ne sont pas inutiles dans les changements nécessaires pour limiter le changement climatique. Selon le cabinet de conseil Carbone 4, ils estiment qu'au minimum, donc vraiment un minimum, les gestes individuels représentent 25% de ce qu'on a à mener pour respecter nos objectifs en termes de limitation des effets de serre. Donc c'est clairement pas négligeable, 25%, c'est bien les individus. Mais par contre, on ne doit pas oublier, il y a un phénomène qui s'appelle le triangle de l'inaction. Donc vous imaginez un triangle où d'un côté vous avez les individus, donc nous, les consommateurs, les citoyens, où on dit mais finalement je ne peux pas faire grand-chose face à Amazon, c'est eux qui décident de m'envoyer des pubs et ils m'obligent un petit peu à acheter. Les entreprises vont dire, bah, finalement, ce n'est pas de ma faute. Moi, je réponds que à la demande des clients. Et les États vont dire, bah, je ne peux rien faire. Moi, je fais des lois, mais les gens ne les respectent pas. Donc, le problème, c'est que finalement, on se retrouve avec trois personnes qui se regardent du doigt et qui disent, bah, non, ce n'est pas à moi de faire, c'est à l'autre. Donc, je pense qu'il faut avoir conscience qu'on a une réorganisation assez forte de la société qui doit être mise en place pour pouvoir limiter les conséquences du règlement climatique et qu'on est bien sur quelque chose qui va être politique. Je vous le disais tout à l'heure que le GIEC ne fait pas de politique. Le GIEC donne des connaissances scientifiques en vous disant si vous faites ça, vous avez telle conséquence environnementale. Et c'est aux politiques et aux sociétés dans la globalité à réussir à tenir compte de tout ça.
D'accord. Alors, si on résume à ce stade, tu nous as dit, Yacine, que 75% de nos émissions de gaz à effet de serre provenaient de notre utilisation des énergies fossiles. Ça, c'est un point à retenir. Un second point est le fait que notre budget carbone est limité et donc le compte à rebours tourne. Et c'est bien pour ça qu'on doit atteindre la neutralité carbone avant 2050. Tu disais que les gestes individuels comptent mais ne suffisent pas et qu'en effet il faut plutôt une réorganisation globale de la société, donc qui prenne en compte des changements d'État, des collectivités locales, des entreprises, et une réorganisation qui soit basée sur des changements techniques mais aussi sur des révolutions d'usage. Alors la compréhension des enjeux, le lobbying, la mobilisation citoyenne, tout cela, ça permet aussi justement d'accélérer ce processus. Et un dernier point à retenir, c'est que finalement chaque tonne de CO2 compte.
Des donuts. Yacine, est-ce que tu es en train de craquer pour nous avoir fait passer ce son-là en fin d'émission ?
Il est 13h22, j'ai toujours pas mangé, je commence à avoir le cerveau qui n'est plus alimenté, il me faut du sucre et j'ai envie de donuts. C'est un fait, mais c'est aussi le nom d'une théorie...
Je te l'ai remis du coup.
C'est aussi le nom d'une théorie qui a été établie par une chercheuse qui s'appelle Kat Weworth. Et je vous invite, pour ceux qui veulent aller plus loin que le petit résumé que je vais vous faire, qui a fait une conférence TED qui est assez intéressante sur du coup, la théorie du donut. Et pourquoi j'avais envie de conclure ce cours avec cette théorie-là, c'est que là, je vous ai parlé uniquement du carbone et donc des changements climatiques. Mais il ne faut pas oublier que la problématique environnementale, elle ne se limite pas uniquement à la question du changement climatique. Et dans la théorie du donut, donc vous imaginez vraiment un donut, c'est-à-dire deux cercles concentriques. Vous avez un cercle à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires, dont le changement climatique est une des limites planétaires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser certains seuils pour garantir la vie sur Terre. Et on va avoir d'autres aussi, on va avoir la consommation d'eau douce et énormément d'autres aspects de limites planétaires. Donc, dans la théorie du donut de Kate Weworth, on doit finalement ne pas dépasser ce cercle et ne pas aller dépasser ce qu'elle appelle le plafond environnemental. Mais elle ne s'arrête pas là, en fait, elle rajoute du coup le petit cercle intérieur, qui est le trou du donut, qu'elle appelle le plancher social. Et donc le plancher social, c'est des choses qu'on doit dépasser, qu'on doit réussir à atteindre. On va avoir l'accès à l'eau, à la santé, ce genre de choses. Finalement, c'est se positionner, essayer d'avoir un mode de développement qui va se situer au milieu, dans le côté moelleux du donut, c'est-à-dire atteindre un niveau social suffisant sans dépasser les limites planétaires.
Donc l'objectif, c'est de rester au milieu, c'est de viser au milieu. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, je ne sais pas si on a des questions. Audrey, il y a une question ?
Écoute, oui, Stéphane, Yacine, j'ai une question qui arrive donc du chat sur Peertube, une question de Day qui se demande comment, au niveau politique, on arrive à justifier l'inaction climatique ? Alors que dans d'autres circonstances, ici Day prend l'exemple de la guerre en Ukraine, eh bien, il suffit de quelques heures, a priori, pour bloquer un pays. Comment peut-on justifier l'inaction climatique ?
Ben, je pense qu'on ne peut bien sûr pas la justifier et que dans la question, il y a la réponse. C'est bien évidemment, on est sur une problématique qui est établie, on sait les conséquences. Et dans le dernier rapport du GIEC, ce qui est intéressant, c'est qu'il est alarmant, mais il est alarmant depuis l'existence du GIEC et de l'existence des rapports qu'il a fait. Il n'y a jamais eu un moment où il disait tout va bien. Donc à chaque fois, c'est alarmant, sauf qu'à chaque fois, il rajoute des éléments et sur les différents scénarios qu'ils étudient, ils expliquent qu'on a actuellement les flux financiers, on a les technologies, on a tout ce qui nous permet d'éviter, du coup, d'aller à la catastrophe.
Merci Yacine. Alors, peut-être que d'autres questions sont en train d'arriver. Ouais, je vois des gens écrire.
J'en ai une autre, sinon, j'en ai une petite pour toi, Yacine. Il y a un autre phénomène. Là, on a effectivement parlé des phénomènes d'inaction des États et tu nous as parlé du triangle de l'inaction, c'était triangle, c'est ça ?
Oui.
Il y a un autre phénomène que je trouve assez intéressant dont tu n'as pas parlé, c'est l'effet rebond. Est-ce que tu peux peut-être nous en donner un ou deux éléments ? Je crois que tu as un exemple avec une deux chevaux, par exemple, qui traîne, qui peut être assez illustrant.
Alors l'effet rebond, c'est un élément qu'on évoque aussi souvent quand on nous renvoie à l'argument en nous disant « mais c'est bon, la technologie nous sauvera, on pourra s'en sortir grâce à la technologie ». Quand on regarde l'histoire de la bonne de Deutsch, donc la voiture, on s'aperçoit que finalement, entre la deux chevaux de l'époque et les équivalents actuellement, on a les mêmes consommations d'essence. Pourtant, on a une technologie qui est quand même plutôt qui nous permettrait d'avoir des choses qui sont plus économes en termes de carburant. Parce que finalement, les technologies avançant, on a amélioré le confort, on a amélioré la sécurité, ça c'est pas grave, mais on a amélioré énormément de choses sur la voiture. Et finalement, on n'a pas gagné beaucoup de consommation d'essence.
Donc tout ce qu'on a investi en quelque sorte dans l'industrie automobile, donc ça a fait gagner effectivement des aspects fonctionnels, on va dire. Mais par contre, en termes, encore une fois ici, énergétiques ou environnementaux, on n'a pas progressé à ce niveau-là, en termes énergétiques en tout cas.
On n'a pas progressé et finalement, on a des choses qui sont plus efficaces et plutôt que réduire la consommation, on a été développer des nouveaux usages.
Je ne sais pas si l'exemple est aussi valide, mais par exemple le fait qu'à un moment on augmente la capacité de production des vêtements et qu'on réduise le coût des vêtements, mais en fait on va se mettre à acheter plus de vêtements et du coup à la fin notre empreinte va être supérieure.
On a aussi sur l'exemple du vêtement, les sites style Vinted ou tout ce qui va permettre d'acheter des vêtements de seconde main qui ont un énorme avantage en termes de réduction d'impact puisque finalement on va donner des secondes vies à des vêtements. Mais attention, il y a des effets rebonds où finalement, si les vêtements coûtent moins cher, on peut avoir des comportements qui font qu'on va en utiliser plus. Et finalement, ce qu'on gagnait par l'existence de ce type de circuit de distribution, on va le perdre par une augmentation de la consommation.
Merci Yacine. J'ai une question de Sacha qui se demande, est-ce qu'il existe des travaux scientifiques qui montrent que certaines alternatives et acteurs alternatifs comme les communs permettent d'accélérer la transition ?
Je ne pourrais pas dire si on a des travaux complets qui montrent le lien de façon inévitable. Par contre, c'est clairement, je pense, enfin, ça, c'est un avis vraiment personnel, donc toujours je préfère le dire quand c'est vraiment un avis personnel, c'est vers ça qu'on doit tendre. Finalement, redonner le pouvoir aux citoyens de maîtriser certaines de leurs ressources. Et quand on gère nous-mêmes une ressource, on est quand même beaucoup plus économe et je pense que c'est vraiment un des aspects intéressants à aller chercher.
D'accord Yacine, j'ai une autre question, on enchaîne à la fin. À propos de la volonté politique, c'est Celti qui demande, est-ce qu'il existe des outils du type mon empreinte carbone, mais à l'échelle des territoires ? Elle prend l'exemple d'un OpenStreetMap avec un calque empreinte carbone par exemple.
À ma connaissance non, mais je pense que ce serait un exemple assez intéressant. J'ai déjà vu des petits travaux d'études qui sont intéressants, qui avaient été menés par exemple sur le département de l'Isère, donc du côté de Grenoble, où ils avaient regardé un petit peu tous les flux de matière qui passaient à travers le département, en regardant ce qu'on consommait en termes de matière et ce qui était ressorti. Et ils s'étaient aperçus qu'en fait, ils importaient énormément de blé et qu'en même temps, ils en exportaient aussi. Et du coup, c'était dommage, autant qu'on les garde sur place. Donc il y a ce type d'études qui existent. On n'a pas encore la mise directement sur un OpenStreetMap, mais ça peut être une idée intéressante.
Ok, merci Yacine. Ok, on a encore un petit peu de temps. Allez, on a une minute ou deux. Thomas enchaîne plusieurs questions. Il y avait d'abord la différence entre efficacité et efficience. Alors là, oui, Stéphanie Yacine, c'est vrai que vous pouvez peut-être tous les deux répondre à cette question, la différence entre efficacité et efficience. Et Seconde question, je lance. Est-ce qu'une approche visant à augmenter l'efficience serait plus pertinente ? C'est un petit peu général comme question. Mais...
Là, on a un blanc hein, en studio parce qu'avec Yacine, on pensait que c'était fini. On était en train de se dire bon, on va aller s'ouvrir une bière. Et donc voilà. On va garder cette question pour la prochaine fois, Audrey.
Ouais, ça marche.
Ok. Mais elle est vraiment intéressante.
Elle est bien. Bon, Thomas, elles sont bien des questions. On va prendre le temps de d'y répondre. J'ai deux autres questions en stock. Est-ce que on prend le temps d'y répondre à l'écrit ou est-ce que c'est maintenant?
Allez, encore une minute, Audrey.
Okay. Est-ce qu'il existe des sources documentaires sur la consommation en ressources, matérielles et électriques, des anciennes architectures et des machines et processeurs récents? Thierry, tu m'excuseras, je ne nomme pas tes références chiffrées. Je ne sais pas si les types 6502, Z80, 80, 86, voilà. Ok, alors je reprends. Existe-t-il des sources documentaires sur la consommation en ressources, matérielles et électriques, des anciennes architectures et les machines à processeurs récents?
Là, je pense qu'effectivement, la question est d'emblée dans le domaine du numérique, donc ce que l'on va traiter en particulier dans le contexte de l'ONU. Mais donc la question, c'est est-ce que l'on sait, en fonction des différents composants, architectures, ce qu'ils consomment? C'était ça la question, André? J'ai bien
entendu. Oui, je crois que je comprends ça aussi.
Pareil, je ne sais pas si on a la réponse, Yacine, on peut peut-être laisser ces questions en suspens.
Aux experts, ensuite, à l'écrit, ouais. Ok.
Mais on peut, par contre, moi, je ne peux pas répondre, mais on peut savoir... facilement, oui. On peut faire des évaluations environnementales, on peut avoir ces informations. C'est pas obscur, c'est pas caché.
D'accord, merci Yacine. Judicaël pose la dernière question que je peux lire sur le chat. Existe-t-il des travaux un peu précis sur la possibilité de maintenir le cercle intérieur du donut, entre parenthèses le plancher social, tout en réduisant les flux d'énergie au rythme suffisant?
On retombe sur les questions à toujours un petit peu au niveau de la sobriété, et je pense que ce cours va vous permettre d'évoquer ça. Mais on a, à ma connaissance, j'ai pas de travaux. Par contre, toujours sur les travaux de Kurt Wewoff, vous pouvez retrouver sur le site dont elle fait la pub d'Anted, rien que la photo actuellement de différents pays où on voit finalement s'ils ont atteint leur plancher social et s'ils ont dépassé leurs limites planétaires. Et ça donne quand même des pistes. On s'aperçoit que les États-Unis, qui est le pire en termes de dépassement des limites planétaires, n'atteint presque pas tout son plancher social. Par contre, on va avoir certains pays qu'on aurait de façon un peu condescendante traité de pays du tiers-monde ou en voie de développement, qui finalement ne dépassent pas leurs limites planétaires et ne sont pas si mauvais sur leur dépassement du plancher social.
Entendu. Merci beaucoup Yacine, merci Stéphane, merci à tous les deux pour cette Big Conf à la radio. On va s'arrêter là et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne Peertube, pour un court émission d'introduction à la low technicisation. D'ici là, on reste en contact sur Mattermost, sur Mastodon et Peertube en suivant le tag l'ONUM. Et puis voilà, bonne journée et à la semaine prochaine.
Au revoir Audrey.
Au revoir à tous.
Upload des connaissances technologiques pour être acteur de projet sur le web.